On va immédiatement parler avec Gaston Deserre, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, parce que, oui, depuis le début de l'année, bien, les cas de COVID sont constamment en baisse et c'est ce qui fait là, probablement que le gouvernement va annoncer certains relâchements tantôt à 17h. Docteur Deserre, bonjour.
Bonjour.
On est sous la barre des 700 cas aujourd'hui. Pendant les fêtes, on flirtait avec les 2500 cas par jour. Pourquoi ça baisse?
Pourquoi ça baisse? Je pense que c'est à cause de tout ce qu'on souffre depuis un mois. C'est-à-dire que toutes les règles qui font qu'il n'y a personne qui peut recevoir d'invités à la maison, qu'il y a un couvre-feu le soir, qu'au niveau du travail, il y a une insistance pour le télétravail. En fait, toutes les règles qui sont mises en place sont celles qui sont à l'origine de la décroissance actuelle. La vaccination, on a commencé à vacciner. On avait commencé à vacciner les travailleurs de la santé, les résidents en CHSLD, puis on commence à peine à travailler, à vacciner les gens de la RPA. Et donc, l'impact de cette vaccination-là là, commence à peine à être visible. Ça fait que l'essentiel, c'est les mesures qui sont en place depuis le début janvier.
Est-ce que ça aurait dû être annoncé bien avant, disons, Noël?
Bien, évidemment, je pense qu'il y a eu toutes sortes de choses qui se sont produites et qui n'étaient peut-être pas ce qui était espéré là, par le gouvernement. Je pense que, clairement, durant l'automne, on a vu augmenter le nombre de cas régulièrement. Mm-hmm. On espérait qu'avec la fermeture des écoles une semaine avant Noël, les différentes mesures là, qui étaient recommandés, mais qui n'ont pas toujours été suivis, bien évidemment, on a vu que ça a continué à monter là, pendant tout le temps des fêtes jusqu'à arriver au moment où il a fallu dire, bien là, ça ne marche plus, là, il faut vraiment arrêter. Et c'est depuis ce temps-là que ça... En fait, c'est pas depuis ce temps-là que ça a commencé à baisser parce que ça prend toujours une semaine ou deux avant que l'impact de mesures comme ça se fasse sentir. Et donc, c'est pour ça qu'au début janvier, ça a continué à monter, puis là, ça s'est mis à descendre assez rapidement.
OK. Docteur Deserre, vous êtes avec l'INSPQ. Vous faites des études à l'INSPQ, vous analysez des études qui ont été faites ailleurs. Tantôt, le PM va parler de la pratique sportive. Les sports les plus à risque là, pour la propagation du coronavirus, c'est quel sport?
Ben, je pense qu'il n'y a pas d'études qui a évalué chacun des sports individuellement pour regarder est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas de transmission avec tel ou tel sport. Alors ça, actuellement, en tout cas, moi, je suis pas au courant d'aucune étude là qui aurait pris le temps d'analyser. On a eu combien de cas associés à la pratique du hockey, à la pratique. On a eu clairement des épidémies qui ont été vues lors de tournois de hockey. Mais c'est pas à cause de la pratique.
Non, c'est ce qu'on a vu. Là, j'ai un cas en tête là où c'était l'après-match, si on veut, là, quand on allait faire le 5-7. Là.
Exactement. C'est soit l'après-match ou pendant la préparation. Les gens sont dans la chambre des joueurs, puis ils sont proches les uns des autres. Et donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui représente la situation typique où est-ce qu'on va avoir de la transmission. Beaucoup de monde dans une pièce pendant une assez bonne période. Ça, c'est des conditions propices. Puis évidemment, si après le match de hockey, les gens se regroupent beaucoup les uns les autres, bien évidemment, ça ajoute à tout ça. Maintenant, si on parle, par exemple, d'aller nager à la piscine, bien c'est sûr que pendant qu'on nage à la piscine, on n'est probablement pas à gros risque d'attraper la maladie. Il n'y a pas le phénomène de sport d'équipe qui fait que dans les vestiaires, les gens vont être
vont fraterniser
le comportement. Oui. Si on parle d'aller patiner dehors, ben je pense que clairement, ça, au niveau scientifique, c'est assez clair que les activités à l'extérieur sont beaucoup moins propices à la transmission. Mais c'est sûr que si on prend chacun des sports un après l'autre, est-ce que le volleyball, le basketball sont plus à risque, moins à risque? Je vous dirais, il n'y a pas d'études là-dessus. Là.
OK, donc pourquoi on ferme les gyms?
Ben en fait, les gyms, ça, c'est un endroit, là, c'est un peu différent, parce que les gyms, c'est souvent, quand on parle des gyms, là, on parle pour des salles d'entraînement, là, et qui sont souvent des salles plus petites, où il peut y avoir quand même souvent pas mal de monde. Je sais pas si on doit appeler ça un sport, c'est certainement une activité physique importante, mais ça, c'est certainement un type d'endroit où on a vu quand même un certain nombre d'éclosions. Alors, à la différence des autres sports dont je parlais, pour lesquels, là, il n'y a pas tellement de données, pour des gyms, là, il y a eu quand même pas mal d'éclosions qui ont été associées à des gyms, mais sans qu'on puisse dire, bon, ben le risque est de tel niveau, là.
Mais on s'entend que la pratique sportive à l'extérieur est à peu près sans risque?
Je vous dirais, elle a un très faible risque, effectivement.
OK. Pourquoi on enlève les buts à ma patinoire de quartier pour la pratique du hockey? C'est, en quoi ça aide à ne pas propager le virus?
Ben, je pense que là, si vous me demandez pourquoi on enlève les buts, je pense que c'est pas tellement les buts, puis c'est pas, ben, évidemment, c'est pas nécessairement juste la patinoire, là. Encore une fois, ça dépend toujours du nombre de personnes qu'il y a sur une patinoire. Si on se ramasse à 30 sur une patinoire à jouer là entre amis et non pas à 5 de chaque bord, puis surtout, avant de se rendre à la patinoire, ben, on va passer s'habiller dans la cabane.
Mais il n'y en a plus de cabane, il n'y en a plus.
Ouais.
Oh. OK. Alors, écoutez, il y a l'Association des médecins du sport et de l'exercice là, qui a fait une sortie, docteur Dessert, en faveur de la reprise de l'activité sportive, parce que eux, ces médecins-là, ce qu'ils disent, on va avoir quelqu'un un peu plus tard là, qui va nous en parler, la sédentarité va avoir des conséquences sur la santé globale des gens. Là. Problèmes cardiaques, diabète, obésité. Avez-vous des chiffres à l'INSPQ qui font une sorte de prédiction, de prévision des coûts cachés en matière de santé, là, je veux dire, la sédentarité qu'on vit, l'interdiction du sport, est-ce que vous savez combien de crises cardiaques ça va causer? Combien de cas de diabète de plus?
Non, évidemment.
Vous n'avez pas ces prévisions-là?
C'est pas quelque chose qui peut être comptabilisé. Déjà, de dire à cause du délestage, il y a combien de personnes qui n'auront pas accès à des soins assez tôt pour leur cancer ou tout ça, c'est presque impossible à calculer précisément. Alors évidemment, quand on parle de maladies qui sont dues à la sédentarité, dont l'impact est à beaucoup plus long terme, ça devient très, 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 très compliqué. Ceci étant dit, je pense que c'est un bel exemple là d'une situation où, j'allais pas dire que ce que tu gagnes d'une main, tu le perds de l'autre, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que si ce que tu essaies, c'est de faire qu'il n'y ait vraiment pas de cas de COVID, tu vas tellement fermer de secteurs d'activité que tu vas avoir plein d'effets négatifs de ces fermetures-là. Alors ça, c'est la grande difficulté de toute la gestion de cette pandémie-là, c'est que si tu pèses fort pour baisser le nombre de cas de COVID, c'est que ça amène plein de graves inconvénients pour les autres secteurs. Là.
OK, docteur de...
Le sport, c'est la même chose. Là. Le sport, c'est essentiel. L'activité physique, c'est essentiel.
Docteur Dessert, il y a bien des gens qui m'interpellent pour me dire, écoutez, c'est bien beau faire la lutte à la COVID, mais les mesures sanitaires, l'isolement, ça va causer des dépressions qui vont causer des suicides. Il y a des gens qui me disent, écoutez, c'est sûr qu'il va y avoir plus de suicides. Que disent les chiffres là-dessus?
Moi, je peux pas dire que j'ai suivi les chiffres sur les suicides, mais c'est certain que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui travaille en santé mentale qui sont très inquiets de ce qui se passe avec la situation actuelle.
Mais vous n'avez pas de chiffres, par contre. On n'est pas en mesure de dire un an après le début de la pandémie là, qu'il y a plus de suicides au Québec.
Combien il y aurait eu de suicides? Ben, peut-être si vous aviez parlé à quelqu'un qui est un spécialiste des suicides, il pourrait vous donner ces chiffres-là, mais moi, je les ai pas. Okay.
Parfait. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, Dr Dessert.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.